L'Europe a profondément inspiré Montesquieu. Dans cette chronique, Monique Brue-Moncassin retrace le grand voyage européen qui nourrira sa réflexion politique et philosophique. Bonjour Monique.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui le pousse à voyager ?
Eh bien, la crise de la quarantaine, ça existe, même chez un grand esprit.
Ah.
Louis XV, avec l'austère cardinal Fleury, est revenu à Versailles. Chantilly et le duc sont en disgrâce. La vie bordelaise est routinière. Alors, il se lance dans les préparatifs d'un voyage en Europe pour s'ouvrir aux us et coutumes d'autres sociétés et de gouvernements différents. Et puis, c'est la mode. Les gens bien nés font ce qu'on nomme le grand tour.
Eh oui.
Il a un tel réseau qu'il emporte avec lui de nombreuses lettres de recommandation pour se faire héberger où il voudra. Il confie la gestion courante de ses propriétés à ses notaires, ses régisseurs, et donne pouvoir de signature à son épouse enceinte de 8 mois. Il remonte à Paris en plein hiver, encore, en décembre 1727. Un mois plus tard, il est enfin admis à l'Académie française. Il part dans la berline de l'ambassadeur d'Angleterre en Autriche le 5 avril 1728. Leurs longs trajets sont propices à de riches conversations. Est-ce à cette occasion qu'il a sérieusement pensé que ce voyage lui donnerait des arguments supplémentaires pour solliciter ensuite un poste d'ambassadeur de France, qu'il n'obtiendra pas et il le regrettera. Son parcours, ses centres d'intérêt, ses rencontres, il a tout noté et écrit. La géographie, les terroirs, l'agriculture, les gouvernements, l'économie, la société, les mœurs. Il ne le sait pas, mais ce seront là les bases de son esprit des lois 20 ans plus tard. Méthodique et curieux, il écrit: quand j'arriverai dans une ville, j'irai toujours sur le plus haut clocher, sur la plus haute tour, pour voir le tout ensemble avant de voir les parties, et en la quittant, je ferai de même pour fixer mes idées. Où qu'il aille, il sait tout sur tous. Et nous, périgourdins, nous sourions à ceci. On mange à Turin une espèce de truffe très grosse, plus blanche que les nôtres, qui sentent l'ail. Elles ne m'ont paru guère bonnes. Bref, séjour en Hongrie pour n'y visiter que des mines de cuivre, puis il descend sur l'Italie, où il fera, entre 28 et 29, un immense périple. Ah, Venise ! Dans ses lettres à des amis masculins, il parle des prostituées à tous les balcons au-dessus des canaux, des masques et des gondoles. Il a même admiré les verreries de Murano en août 28. Padoue, Vérone, Milan, Turenne, Gênes, Florence... Il tombe en arrêt devant les merveilles de la galerie de Côme de Médicis et ses tableaux. Eh bien, figurez-vous que c'est en Italie qu'il va s'ouvrir aux arts. Peinture, sculpture, concerts et surtout les opéras. Toutes ces beautés, pas encore à ce niveau en France, ou qu'il avait négligé. À part le théâtre à Paris. Sienne et Rome finissent de l'éblouir et il est choyé par l'ambassadeur de France, le cardinal de Bernis, qui recevait princièrement en son splendide hôtel. En remontant, en octobre 29, ce sera le Vésuve, Pompéi à peine connue, Naples, Bologne, pour arriver à Munich, Francfort, Mayence, Bonn et Cologne. Sa théorie des climats sur les hommes et leur civilisation se construit en parcourant tous ces pays aux territoires si différents et se retrouvera plus tard, bien sûr, dans son ouvrage. Mi-octobre 29, il va en Hollande, à Düsseldorf, puis à Amsterdam, là où furent imprimées les lettres persanes. Il y a des connaissances utiles, dont le négociant en vin, Pierre Balgueri. Voyez comme il peut être gourmand sur place, en dégustant des spécialités rappelées plus tard sur cette note adressée par Balgueri. Je prends la liberté, cher président, de vous envoyer une petite provision des spécialités de ce pays, à savoir... un petit baril de beurre de Leyde, un baril de biscuits fins de deux sortes, je viens de trouver leur nom, un gros fromage de croûte rouge que mon cousin Balgueri de Bordeaux aura soin de vous remettre dans un bateau. J'ai mis 20 ans donc pour découvrir le nom de toutes ces bonnes choses. Dure épreuve que de traverser la mer du Nord un 31 octobre, même en bénéficiant du yacht de Milord Chesterfield, ambassadeur d'Angleterre à La Haye. Arrivé à Londres le 3 novembre, il va rester plus d'un an à découvrir la royauté parlementaire, en assistant à des séances à la Chambre des Lords, invité par certains de ses membres qui étaient déjà des amis à Paris. Il y découvre la séparation des pouvoirs. Enfin, il côtoie savants et philosophes dans l'équivalent de notre Académie française. En février 1730, exception pour un étranger, il est reçu membre de la Royal Society. La reine va l'accueillir plusieurs fois et il tombe sous le charme des parcs des châteaux anglais. Et de retour à la Brède, il chamboulera l'environnement du sien.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir fait voyager aujourd'hui avec Montesquieu dans ces merveilleux pays européens. Demain, vous nous ferez découvrir un autre aspect, c'est le Montesquieu franc-maçon. À demain. Au revoir, Monique.
Au revoir.